Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on débrief l'actu tech, comme chaque soir, vous le savez, hein, dans Tech & Co, la quotidienne 20h-21h. Puis tout à l'heure, je recevrai le président de Intel France. Quelle est la réponse d'Intel face à Nvidia? C'est l'une des questions qu'on posera à Erwan Montaud, le président d'Intel France. Et puis, juste après, on partira un petit peu dans les étoiles pour découvrir cette grande caméra astronomique, la plus grande caméra astronomique au monde. Écoutez bien, cette caméra a 3,2 milliards de pixels. Ça fait quand même quelques smartphones. Et elle permet d'avoir évidemment des clichés des étoiles et de l'espace incroyables. On en parlera avec un directeur de recherche au CNRS, Pierre Antilogus, qui sera avec nous. Mais dans l'immédiat, on débriefe l'actu tech. Claudia Cohen du Figaro, Jérôme Colombin de Monde Numérique et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Tiens, du neuf concernant Sam Altman. On va en parler un peu parce que quelques actualités sympathiques. Il faut savoir que la personnalité incontournable de ce monde l'IA, évidemment, c'est Sam Altman. Et selon le dernier classement Forbes qui a été publié il y a quelques jours, peut-être l'avez-vous vu, ça y est, Sam Altman est milliardaire. Et ça semble plutôt logique, sauf que ce n'est pas du tout grâce à l'intelligence artificielle qu'il est milliardaire. Les explications d'Anthony Morel tout de suite et on revient juste après.
En fait, OpenAI ne lui rapporte rien.
Non.
Il a aucune part dans OpenAI. Il dit qu'il fait ça parce que ça l'amuse et qu'il aime ça. Il a dit ça lors d'une audition devant le Sénat américain. C'est assez étonnant. Bon, il a les moyens, hein, Sam Altman. Il a gagné un peu d'argent auparavant. Et effectivement, c'est un profil intéressant. Serial entrepreneur, serial investisseur. Serial entrepreneur parce que sa première entreprise, il l'a créée à 19 ans. C'était une entreprise qui s'appelait Looped, un réseau social qui permettait de partager sa géolocalisation avec les personnes de son choix. Il a vendu ça à 43 millions de dollars.
Un petit peu, c'est ça.
Mais avant l'heure, c'était en 2005, ouais. Très très tôt. Et en fait, il a utilisé Spactol, ces 43 millions de dollars que lui a rapporté cette entreprise, pour investir très tôt dans plein d'autres entreprises. Dans Reddit, par exemple. Reddit qui vient de faire son introduction à Wall Street, qui vaut aujourd'hui plus de 7 milliards de dollars. Il en détient 8%. Il a misé sur Stripe aussi. Stripe, l'application de paiement, valorisée aujourd'hui 65 milliards de dollars. Donc ça lui a rapporté, là encore, un petit peu d'argent. Et puis des paris un peu plus fous aussi. Et c'est l'une des forces de Sam Altman, c'est qu'il est prêt à mettre parfois un gros billet sur des deep tech complètement dingues. Par exemple, Retrobioscience, c'est une biotech qui veut augmenter la longévité humaine en bonne santé de 10 ans. Il a mis 180 millions de dollars de sa poche.
Oh, pas mal.
Boutille. 375 millions de dollars investis par Sam Altman dans Elion. Elion, c'est une entreprise qui se spécialise dans la fusion nucléaire, enfin qui fait ce pari, parce que là encore, c'est un pari scientifique très très osé, celui de reproduire ce qui se passe dans les étoiles pour pouvoir générer une source d'énergie propre, sans déchets, décarbonée. Là aussi, c'est des paris qui nous amènent des décennies en avant.
Fusion nucléaire, santé, vous l'avez vu, le paiement avec Stripe, voilà, Sam Altman est partout, il est dans Reddit aussi, ce forum qui vient d'être introduit en bourse. Tout ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est qu'il a du nez quand même. Hein. Alors évidemment, il s'est pris peut-être des gadins, mais voilà quoi, il a investi dans les bonnes boîtes au bon moment.
Ouais, mais c'est un peu le mode de fonctionnement de la Silicon Valley, de la tech, depuis toujours. Aujourd'hui, tous les patrons de start-up, tous sont aussi investisseurs, et même, ça va plus loin, tous les collaborateurs de start-up jusqu'au plus petit niveau, ils ont des trucs, des shares, des equities, ouais. Des machins, et ils ont que ça en tête. C'est laquelle va me rendre riche. Ils savent que c'est pas leur travail qui va les rendre riche, parce que ça c'est écrit et c'est dans le monde entier. En revanche,
ça arrive, mais c'est rare.
C'est rarissime. Non, mais si tu mises sur le bon cheval et que tu fais des bons placements financiers, c'est là où tu deviens riche. Et ils sont tous dans cette situation là.
Mais c'est vrai ce que dit Jérôme. Moi, j'ai un cousin qui est chef développeur d'une grande boîte dont on parle régulièrement. Et il me dit, moi, le matin, quand je me lève, je regarde deux choses. La première, c'est si le code que j'ai lancé a se développé, où on en est, puis les messages des autres codeurs pour voir si on a réussi à résoudre le problème. Et le truc, c'est je regarde mes actions.
Bien sûr.
Et j'ai un écran qui est toujours sur mes actions pour voir à peu près.
Comment sa fortune évolue.
Comme ça, sa petite fortune évolue,
Claudia, Sam Altman.
Moi, je pense que juste, ça reste à prouver quand même qu'il a aucune part dans OpenAI. Moi, j'ai du mal à y croire, franchement, qu'il a pas un sou là-dedans.
J'ai du mal à y croire.
J'ai un peu du mal à y croire.
On l'a connu grâce à ça. Il communique que sur ça, finalement. Hein. Quand il fait son tour de l'Europe ou son tour du monde pour vanter les mérites de ChatGPT et de le vendre aux entreprises, on ne peut pas dire il fait pas ça par philanthropie, en fait.
Il doit avoir un salaire, mais pas forcément de part de la société, c'est ça qu'il
c'est
veut
ça.
Dire,
je crois. Oui, c'est ça qu'il dit, mais bon...
Après, vu la complexité, le montage complexe d'OpenAI, il y a une partie, on va dire, qui est...
Oui, mais tu vois, j'ai du mal à croire, si demain OpenAI est vendu, qu'il ne touchera rien de cette vente.
Moi non plus.
J'ai juste un peu de mal à croire ça. Et après, l'entend mieux
ça,
pour
c'est
lui.
C'est un statut d'organisation, hein, c'est pas un statut d'entreprise. Hein.
Ouais, mais
voilà. Après, quand ils, alors c'est pas comme une fondation, mais quand bon Microsoft, quand on disait ils avaient mis de l'argent, mais ils avaient aussi donné du crédit, enfin acheté via du crédit cloud et tout ça. Voilà. Après, comme tu dis, il a Y Combinator, on en parle beaucoup parce que c'est toujours cet accélérateur de start-up qui a mis la main sur plein de sociétés. Puis là, quand on voit les sociétés dans lesquelles, je crois, l'Opt, il avait vendu ça une cinquantaine de millions de dollars. Quand on voit juste, vous savez, on s'est tous amusés à ça. Quand il y a les gains au loto, on se dit, oh, si je gagnais 40 millions au loto, je place ça, ça me rapporte 30 000 euros par mois, etc. On imagine, lui, 40 millions de dollars. Il pose ça, en plus, dans des sociétés Reddit, Airbnb, Dropbox, enfin, Stripe, qui a des boîtes Stripe, c'est monté, enfin, à plusieurs dizaines de milliards de dollars de valorisation. Voilà.
Et là, ça va peut-être aller en bourse, je crois, Stripe.
Oui.
Donc ça lui...
Stripe, c'est utilisé par toutes les boîtes dans le paiement, quoi, en marque blanche.
Mais c'est vrai qu'on en parlait à la coupure publicitaire. On se remémorait ce qu'il avait fait comme étude. On regardait, il a fait Stanford. Après, il est parti pour monter ses boîtes. C'est un peu les parcours finalement classiques de ses pairs. Et en fait, c'est comment vous réussissez à rentrer dans le cercle fermé pour avoir aussi, j'imagine, les bons conseils.
Il n'est pas fermé, ce cercle, justement. C'est ça la magie du truc. C'est qu'il n'est pas fermé. Tu fais des bonnes études, tu te défonces aussi comme il faut.
Ça reste fermé d'avoir accès à des bonnes études quand même.
C'est une sorte de
c'est un autre débat,
escargot, mais tu es entraîné dans
les études aux États-Unis sont chères, mais il y a aussi plein de bourses. Moi je connais qui ont fait des études gratuitement aux États-Unis, hein, ça arrive tout le temps. Et puis ça, plus la loterie pour les papiers sur plein de choses, et genre, évidemment c'est pas donné à tout le monde, mais quand même il y a des on peut forcer le destin, c'est pas le hasard et c'est pas que des histoires de fils à papa,
du panier, je pense à ce moment-là. Il faut faire partie.
Je pense qu'il faut être focus sur le
Indiens,
truc et sur les études depuis le début.
Bon, regarde quand même Satya Nadella, il est immigration, il est né en Inde, donc il est au niveau d'immigration. Sundar Pichai, lui, il est peut-être né aux États-Unis, mais on voit, tu vois, tous ces immigrés aussi qui ont réussi.
Dernière question. Juste sur la fortune, c'est pas du cash qu'il a. Hein.
Non, évidemment,
c'est une fortune qui peut
s'effondrer.
On est d'accord, il peut perdre 30, 40, 50, 100% demain, quoi.
Ce que je retiens aussi de l'intervention d'Anthony, c'est la santé. Parce qu'il faut savoir que Sam Altman est omnibulé par sa santé et par le fait de pouvoir prolonger la vie.
Ça aussi, c'est très Silicon Valley.
Ouais. Il y en a un, celui qui avait injecté le sang de son fils, celui qui injecte le sang de son fils pour vivre plus longtemps.
C'est ce qu'il appelle le sang jeune, finalement, c'est incroyable. Ouais. Et il investit dans une boîte, et Anthony en a parlé, hein, qui est toute nouvelle, et qui essaie d'inverser le processus de vieillissement. Elle s'appelle Retro Bioscience. Il a mis 180 millions de dollars dedans, hein, c'est ce que disait Anthony. Et c'est intéressant de voir que tous ces milliardaires investissent dans, on va dire, la cure de jouvence, vie éternelle.
Et ils investissent aussi beaucoup plus discrètement, parce que c'est compliqué de retrouver tout ça, mais c'est dans l'immobilier. Hein. Pas croire que il a des propriétés à droite à gauche qui sont aussi valorisées. Ils sont là-dedans aussi. Hein. Il y a aussi ce côté-là.
Oui, bien sûr.
On en a aussi en France avec Xavier Niel, qui est un gros investisseur dans la tech, mais qui est un gros propriétaire foncier aussi.
Tout à fait. Donc, le foncier, c'est toujours une valeur sûre.
Il faut diversifier son patrimoine, messieurs.
Tout à fait. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier.
Quand on aime.
Mais bon, nous ne nous faisons pas trop de soucis concernant Sam Altman. Tout va bien.
Mais tu as raison, en fait, sur la santé. C'est vrai, quand tu es milliardaire, je veux dire, le premier truc que tu auras envie de t'acheter,
c'est l'éternité.
C'est la santé parfaite, l'éternité, évidemment.
Et c'est le seul truc que tu ne veux pas te payer.
Exactement. C'est le plus difficile.
Voilà. Et c'est vrai que, je sais pas moi, allouer 10% de sa fortune à ça, ça peut le faire.
Il a raison.
C'est intéressant. Autre sujet d'actualité intéressant, peut-être l'avez-vous constaté si hier ou aujourd'hui vous avez lancé Amazon Prime. Moi j'étais victime de ça, hier soir.
Est-ce que tu es de la vraie pub ? Moi pour l'instant, je n'ai eu que de la promo. d'autres programmes Amazon Prime.
C'est vrai, exactement.
J'ai pas eu de pub sur les chips, les machins.
Ouais, ils y vont mollo. Ouais.
Ils y vont mollo, oui, je pense qu'ils nous préparent.
Mais par contre, c'est à l'américaine. Hein. T'es en train de regarder ta série, ton film, tout à coup, regardez, le mois prochain, le film Ferrari, je ne sais quoi, machin. Et hop, alors que nous, en France, on est plutôt habitués à page de pub, la pomme de France Télé pour les plus anciens.
Ouais, c'est un peu fini, ça. Hein,
bah, ouais, ouais, mais bah, tu m'as compris, on a toujours un petit jingle pub qui apparaît. Non, là c'est à l'américaine, c'est t'es dans l'action et d'un coup, je pompe, ça
c'est à la YouTube, avec YouTube.
Non, mais même à l'américaine de façon plus classique, les télé américaines.
Oui, sur le broadcast, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a au minimum 12 minutes de pub par heure.
Mais ils ont promis que ce serait moins en France, que ce serait moins, qu'on nous harcèlerait moins.
Et alors pourquoi on en parle, Claudia? Parce que vous l'avez remarqué, donc depuis hier, si vous ne payez pas 2 € de plus par mois, eh bien sur Prime Video, vous allez avoir de droit à de la pub.
Mais ils ont fait une stratégie assez différente de Netflix, par exemple, parce que Netflix a lancé une offre pub qui n'existait pas, et donc vous pouviez souscrire à cette offre pub qui était moins chère. Or qu'Amazon, ils sont partis du principe que tout le monde aura de la pub, et si vous n'en voulez pas, vous payez 2 € de plus. Donc
c'est de l'opt-out, finalement.
Oui, c'est ça. Et c'est plus intelligent pour marketer l'offre auprès des annonceurs. Moi, j'ai eu des agences de com qui m'ont dit qu'il y avait pas mal de groupes, même dans le luxe, qui allaient y aller. Après, je sais, les infos que j'ai réussi à avoir, que niveau prix, ça coûte environ 2 fois moins cher que la publicité sur Netflix en France aujourd'hui. En tout cas... Pardon, pour les prix de lancement, ils essaient de juger le marché.
C'est quoi, c'est par rapport à l'audience?
C'est par rapport à l'audience. Après, là, je pense qu'ils essayent de tester...
Puis je pense le profil, comme ils ont les profils des abonnés, ils savent identifier à peu près le profil en disant, voilà, le cadre...
Parce que finalement, Claudia, tu as enquêté sur ce sujet, mais la pub sur Amazon, elle a beaucoup plus de valeur, finalement, pour les annonceurs que sur Netflix ou sur Disney+.
C'est ça. En fait, ce qu'ils promettent, c'est de vous dire je vais cibler François qui regarde une série. Je sais qu'il regarde cette série sur Amazon. Oui. Et par ailleurs, François est un grand addict de chips qu'il achète en masse sur Amazon.
Mais c'est ça pour nous.
C'est plutôt une côte de
bœuf. Et du coup, ils essayent de. En fait, ils promettent aux annonceurs.
Une côte de bœuf sur Amazon, c'est pas facile. Hein.
Oui, donc il y a quand même tout ce trésor de données transactionnelles qu'a Amazon sur ses utilisateurs.
Incroyable.
Qui est énorme. Et derrière aussi, puisque là, c'est l'amont, et sur l'aval, ça va aussi permettre plus facilement à un annonceur qui a mis de l'argent de voir si dès le lendemain, pendant la semaine, il y a une hausse de ses ventes sur le produit qu'il a mis en avant dans les pubs sur Amazon.
Est-ce qu'on est sûr qu'il y a un croisement entre le profilage de ceux qui regardent Amazon Prime Video et des acheteurs d'Amazon?
Oui, ouais.
Parce qu'à partir du moment où
tu es
abonné à Prime, c'est le même service.
C'est ce qu'ils promettent en tout cas.
Mais ça veut dire que vraiment, ils croisent les profils?
Ah oui, ça j'en suis...
Ils ont le droit
Oui, ils ont le droit, mais ils font pareil sur Twitch.
Tu as reçu ton chapeau de cow-boy après avoir regardé Yellowstone, t'as pas posé...
Mais non, mais justement, t'as déjà vu ça des...
Non, je ne te pousse pas des produits sur Amazon... J'avoue que je ne me promène pas assez sur la plateforme Amazon Place de Marché pour voir les pubs qui me ressortent. En général, ils sont plutôt dans les pubs classiques. Je suis allé voir les chaussures de sport.
Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? À mon avis, c'est plus subtil que ça. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus subtil. Ce n'est pas parce que tu as acheté des parpaings ou enfin que tu regardes une série sur des parpaings qu'on va te vendre des parpaings.
Oui, mais je...
Mais je pense que c'est vraiment plus le profilage sur le sexe, l'âge.
Si tu as une famille nombreuse.
Mais ça, Netflix, là aussi.
Mais pas autant. Pas autant, je pense.
Si, à partir du moment où c'est de la SVOD.
Mais je sais pas si Netflix à ton âge, par exemple, ils connaissent pas tes goûts en termes de commerce, finalement.
Au bout de 10 ans sur Netflix, ils connaissent mes goûts, je peux te dire.
Oui, tes goûts de série.
Mes goûts de série.
Mais ils n'ont pas ton profil marchand, finalement.
Je trouve ce qui est fort, la part d'Amazon, c'est aussi de dire, tiens, pour pas avoir de pub, payer 2 €. Mais en fait, tu pourras payer 2 € de plus. À la limite, ça va faire une case de plus en disant, tiens, lui... il a un petit pouvoir d'achat plus important, il est prêt, parce que les données on les a quoi qu'il arrive. Alors après utilisateur, ce sera bien, tu n'auras pas de pub, mais t'inquiète pas que ton profil il est bien identifié pour te pouvoir te diriger quand tu vas te connecter sur la place de marché.
Voilà, et donc tu disais c'est 2 € de plus par mois si on ne veut plus de pub. Voilà.
Oui, une des questions, je pense, c'est est-ce que demain, il va y avoir des pubs cliquables ? Est-ce que tu vois, on va te mettre une pub et tu auras la possibilité de cliquer qui te redirigera derrière vers une page Amazon pour acheter un produit ? Je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait voir apparaître là-dessus. Peut-être pas forcément en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas aux États-Unis qu'il y ait ce type de format qui puisse.
Et tu vois, s'il y a un bon ciblage, par exemple, je ne sais pas, moi, tu regardes sur Amazon des vélos électriques. Je dis n'importe quoi. Mmh. Parce que tu es en phase d'achat d'un vélo électrique. Bah, tu te retrouves avec une pub de 30 secondes, un super vélo électrique, etc. Et on te dit, bah, tiens, vous avez en plus 20% en train de regarder ta série et tu cliques dessus et t'achètes ton vélo. C'est plutôt malin, je trouve. À voir comment ils arrivent à triturer tout ça.
Ouais. À voir s'ils ont le droit de faire ça, encore une fois.
Droit, et puis on est toujours en train de fantasmer aussi sur le fait qu'on puisse croiser des fichiers en tous les sens. C'est pas aussi facile,
non, quand même. Voilà, c'est un fantasme.
Il faut pas les sous-estimer.
Mais par contre, la centaine de dire ils connaissent tout sur nous, et puis tu vois que finalement, quand tu vois ne serait-ce que les cyberpiratages et tout ça, tu vois que finalement ils font pas de lien aussi fort entre tout ça.
Mais tu vois par exemple entre Alexa et Amazon place de marché, il y a des limites, il y a des frontières, parce que quand tu fais ta liste de courses sur Alexa, ce n'est pas perméable avec tes courses sur Amazon. Je sais, parce que je leur ai posé la question, moi j'aurais trouvé ça bien. Tu fais ta liste de courses, tiens Alexa, rappelle-moi d'acheter ça, etc. Et après, quand tu te connectes à Amazon, ils te poussent les trucs. Et en fait, non, ils ne peuvent pas faire ça.
Oui, mais là, c'est via Prime. Là, donc c'est via le même service, pour le coup.
Oui, mais Alexa, ça appartient à Amazon aussi.
Oui, mais c'est pas dire, dans
c'est...
Prime.
Non, c'est pas Prime. Mais c'est,
tu vois,
c'est
je pense qu'il y a une
analogie,
petite...
Oui.
Bon, en tout cas, on va enquêter, parce que c'est vrai. Moi, je pense qu'ils peuvent. Je pense qu'ils ont des passerelles. Oui. Entre
Moi, c'est clairement ce qu'on m'a dit. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Les agences de communication que j'ai eues, qui vendent leur offre à leurs annonceurs, l'offre qui est présentée par Amazon, c'est celle-ci.
C'est ce qu'on m'a dit. Voilà.
Après, attention, là où ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour l'instant, des plateformes comme Amazon ne sont pas mesurées par médiamétrie comme peuvent être les chaînes de télévision, et qu'il pourrait y avoir un sentiment peut-être déceptif de la part de certains annonceurs. Comme tu disais, on nous promet plein de trucs, de croiser des données, etc. Est-ce que ce sera aussi efficace que ce qu'ils disent ? On ne sait pas. On verra.
On verra bien. En tout cas, intéressant
c'est
tout
vrai,
ça.
C'est un annonceur qu'il faut inviter pour
le demander. Exactement. Ou alors une agence de pub, une régie, pour voir comment ils travaillent avec eux. Mais je pense que tout ça est assez confidentiel. Je ne pense pas qu'ils nous disent grand-chose là-dessus.
Ben moi, c'est ce qu'ils m'ont dit pour mon enquête. C'est eux que j'ai eu.
Très bien. Mais tu es une excellente enquêtrice.
Donne-moi.
La Colombo du Figaro, elle est là. Il nous reste quelques minutes. Autre actualité intéressante, c'est Apple qui... confie de plus en plus la production de ses iPhones à l'Inde. C'était anecdotique il y a encore quelques années, ça le devient de moins en moins. Il faut savoir que aujourd'hui, Apple aurait assemblé pour 14 milliards de dollars d'iPhone en Inde au cours de l'exercice 2024. Et ça signifie en fait que la firme y fait assembler donc en Inde jusqu'à 14% de sa production mondiale.
1 sur 7.
C'est un chiffre qui commence à être important. Hein, je disais, il y a encore quelques mois, c'était Epsilon. Et on voit que Apple, petit à petit, essaie de, non pas de se désolidariser de la Chine, parce que c'est là-bas qu'ils fabriquent le plus d'iPhone, mais en tous les cas, d'essayer de rééquilibrer les usines de fabrication.
Ils le disent, la moitié de la production mondiale en 2027 devrait être en Inde. Hein,
donc ils passeraient de 14 à 50%.
Ouais, et là, ils disent un quart en 2025. Quand on voit la vitesse à laquelle ils sont allés, et j'avoue être le premier à reconnaître que moi, au début je me disais ça va être compliqué parce que l'Inde c'est pas les mêmes structures routières. Alors ils le font pas n'importe où, ils font dans le sud de l'Inde qui est un peu plus moderne,
où il y a toutes les infrastructures,
c'est la taille d'un continent,
sais,
et tout ça.
À mon avis tu subventionnes les routes,
Le temps de mettre tout ça en place, le temps de mettre la partie, même l'histoire de douane, on sait que la douane indienne c'est pas tout à fait la même chose que la douane chinoise où là il y a pas un orteil qui dépasse. La douane indienne, il y a quelques libertés qui sont prises parfois, enfin tu vois,
tu connais bien la douane.
Un livre d'ailleurs sur la douane indienne.
J'ai parlé à deux trois personnes qui sont dans l'export en Inde et ils disent l'export indien bien, c'est quoi le problème? C'est selon les régions, c'est les structures aéroportuaires, de logistique et tout ça. La deuxième chose, c'est voir dans quelles usines et par qui c'est dirigé, parce que là, tu peux très vite mettre tout le monde en grève, et puis là, la répression, ça peut se faire très violemment. Et puis le troisième point, il y a tout l'écosystème autour. Et puis il me dit, il y a un vrai souci. Ils ont un vrai souci de douane, corruption, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et qu'il n'y a pas en Chine. Donc, et moi, pour tous ces aspects-là, je me dis que ça ira beaucoup moins vite. Bon, visiblement, Apple a dû trouver des arguments pour avancer.
C'est qu'une petite partie pour l'instant. Bien c'est sûr. Peut-être pour tester un peu le truc.
Il y a le Vietnam, il y a le Brésil aussi qui sont.
Mais alors pourquoi Apple fait ça? Tout simplement pour essayer
pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.
Voilà. Et puis, Apple constate, comme tout le monde, les tensions géopolitiques croissantes le COVID, entre les États-Unis.
Depuis 2019,
ils sont. Et la Chine. Les problèmes aussi à Taïwan. Donc, je pense que Apple se dit. C'est pour ça même qu'il y a des relocalisations aux États-Unis. Hein.
Mais même Foxconn, Foxconn est emmené là. Il y a des Taïwanais qui assemblent même qui sont des sous-traitants d'Apple qui viennent assembler en Inde. Enfin, il y a un réseau de même les sous-traitants se mettent à s'installer en Inde. Donc c'est, ça aussi, c'est un élément qui est important. Il y a des gros industriels taïwanais qui ont basculé vers l'Inde. Donc ça a aussi donné ce phénomène accélérateur. C'est pas que Apple avec Foxconn qui est installé là-bas.
Peut-être à terme, dans un futur, dans 10 ans. Peut-être que ce ne seront que les produits à destination du marché chinois, peut-être qu'ils seront fabriqués. Oui, qui seront fabriqués en Chine.
Ouais, parce que pour l'instant, le pouvoir d'achat en Inde n'est pas suffisant, je pense, pour vendre.
Non. Et alors, par contre, au niveau des coûts de main-d'œuvre aussi, il faut dire que la Chine aussi, la population vieillit. Et aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, le coût de main-d'œuvre d'un ouvrier chinois, c'est 4 fois plus cher en moyenne qu'un ouvrier indien. Donc, il y a aussi cet aspect-là où la Chine, qui était très attractive sur le coût de la main-d'œuvre, l'est un peu moins aujourd'hui.
C'est pour ça qu'ils sont allés aussi vers le Vietnam.
Oui, vers le Vietnam, vers la Thaïlande aussi, ils commencent un peu, donc il y a tous ces aspects.
Voilà, c'est passionnant aussi, tous ces mouvements géopolitiques, notamment quand
ça sous-tend de plus en plus toutes ces questions-là, toute cette industrie à tous les niveaux.
Et je suis sûr que Tim Cook le fait au pas de charge. C'est-à-dire que...
Et puis si Trump revient aux États-Unis, il va remettre le couvert avec fabriquer les iPhones sur le sol américain.
Ce qui aujourd'hui est impossible. Enfin, franchement,
ça paraît compliqué.
C'est une complexité incroyable.
Un coût de l'industrie,
Eh bien voilà, ce débrief de l'ActuTech est terminé.
Juste un petit hommage à Peter Higgs, c'était un grand scientifique britannique qui a mis au point qui a permis de découvrir qu'il y avait une particule qui s'appelait le boson de Higgs grâce au grand circuit
l'accélérateur
de particules et on dise chaque particule a une masse. Et donc, en 2012, ils ont trouvé que ce boson de Higgs existait et que chaque particule a une masse. C'était une très grande avancée. Alors, pas d'application concrète, c'est pas comme ça, les applications, on les aura dans plusieurs dizaines d'années. Mais on a réussi on essaie de comprendre la matière, ses masses et tout ça. Et donc, Peter Higgs est mort il y a 2-3 jours. Donc,
quel nom.
Une émission sur la tech et la science, c'était important de.
Ça s'appelait X.
En plus, X-H-I-G-G-S.
Ah oui. C'est Elon Musk qui doit être jaloux.